Donc l'évangile, on se lève pour l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 5. En ce temps-là, Jésus, voyant les foules, gravit la montagne, et quand il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il se mit à les instruire, disant, « Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre. » Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront eux-mêmes miséricorde. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Bienheureux les pacifiques, car ils seront appelés enfants de Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux vous serez lorsqu'on vous maudira, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous alors et tressaillez de joie. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Veuillez vous asseoir. Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est donc aujourd'hui la grande fête de la Toussaint. Avec mémoire du 22e dimanche après la Pentecôte. Les choses d'abord se rappeler que ce mois de novembre que nous commençons aujourd'hui est un mois traditionnellement dédié aux âmes du purgatoire. Donc n'oubliez pas de prier bien tous les jours pour tous les âmes du purgatoire qui ont besoin de nos prières. D'après saint Thomas d'Aquin, les âmes du purgatoire ne peuvent rien faire pour nous directement, au moins ici-bas, au moins actuellement tant que nous sommes ici-bas. Elles ne peuvent rien faire pour nous parce qu'elles sont dans un état de purification passive. Mais nous, on peut faire quelque chose pour elles. Une fois qu'elles seront au ciel, ces âmes du purgatoire pourront, bien sûr, prier pour nous de façon toute spéciale, parce qu'elles n'oublieront pas leur bienfaiteur. Et en ces débuts de mois, l'Église catholique se rappelle, justement, nous demande de prier pour que l'Église puisse continuer à faire remplir sa mission. On voit ces trois grandes fêtes, la fête du Christ-Roi dimanche dernier, la fête de la Toussaint aujourd'hui, la fête des jours des morts demain, qui nous rappellent justement que nous avons à nous sanctifier dans cette Église. L'Église militante ici-bas, qui est représentée par la fête du Christ-Roi, et qui est associée à la vie et la vie purgative. Et puis ensuite, la fête d'aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. Donc là, c'est l'Église triomphante du ciel, qui est associée à la vie unitive, à la vie mystique. Et enfin, demain, la fête des morts, qui est l'Église souffrante. L'Église souffrante, elle, associée cette fois-ci à la vie illuminative. Et je pense qu'aujourd'hui, alors que nous voyons l'Église catholique bafouée, l'Église catholique méprisée, l'Église catholique déshonorée, l'Église catholique qui est mise plus bas que terre à tel point que beaucoup de catholiques ont presque honte d'être catholiques. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut justement manifester notre amour pour l'Église. Nous sommes membres de l'Église catholique. Et nous devons avoir cette fierté extraordinaire de l'Église. Donc ne nous laissons pas, mes bien chers frères, circonvenir par toutes ces fausses idées contre l'Église. Dès qu'on parle de l'Église catholique aujourd'hui dans le monde moderne, tout de suite on nous dit « Ah, les catholiques, c'est les bûchers fumants de l'Inquisition, c'est les croisades, c'est tout ça. » Les gens ne connaissent même pas de quoi ils parlent. Donc n'ayons pas peur, mes bien chers frères, de rappeler les grandes vérités. L'Inquisition n'a jamais été un assassinat de masse de gens qui ne pouvaient pas se défendre. L'Inquisition, c'était l'Inquisition de la foi, pour protéger la foi catholique. Et il y avait bien plus de droits pour les gens qui étaient condamnés par l'Inquisition qu'aujourd'hui en France, où on est condamné pour le moindre délit d'opinion. C'est pareil pour les croisades. On présente les croisades comme une espèce d'horreur, mais n'oublions pas que si l'Église n'avait pas organisé les croisades contre les musulmans, avec même jusqu'à la bataille de Lépante en 1571, nous serions tous musulmans. Les musulmans prenaient les femmes en esclavage, enlevaient toutes les femmes dans les harems, détruisaient complètement toute la civilisation chrétienne. Et l'Église a bien fait, justement, de se battre pour protéger la civilisation chrétienne. On aurait bien besoin de refaire la même chose aujourd'hui. Constamment, on entend d'autres exemples, d'autres choses qu'on entend régulièrement. Hein, mais l'Église catholique a assassiné ces pauvres religions extraordinaires qui suivaient la loi naturelle en Amérique du Sud. Et c'était magnifique. Parlons-en, la petite religion naturelle bien gentille, bien douce. Lorsque Cortés est arrivé, je vous l'ai déjà dit sans doute, lorsque Cortés est arrivé au Mexique, autour des années 1520, 1525, lorsqu'il est arrivé au Mexique, les soldats ont vu que pour l'inauguration de la pyramide de Teotihuacan, près de Mexico, il y avait eu 60 000 victimes humaines. On assassinait les gens dans les rues, autant qu'on faisait des cathédrales en Europe, dans ces pays-là. Qu'est-ce qu'on faisait? On assassinait les femmes, on assassinait les enfants, on prenait des jeunes pour arracher leur cœur, pour offrir à leur faux Dieu, le soleil, le sang des jeunes. Et l'Église a bien fait de lutter contre ces choses-là pour justement amener le sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui allait rendre tout à fait non nécessaires les sacrifices humains de l'époque. Mais donc, ne pas avoir peur. On entend aussi des tas de bêtises sur ah, mais l'Église est contre la science. Regardez, elle a condamné Galilée parce que Galilée avait compris avant tout le monde que la Terre tournait autour du Soleil. En fait, Galilée n'a jamais été condamné pour ça. Galilée a été condamné tout simplement parce qu'il a refusé de suivre le conseil du pape qui lui demandait de ne pas vouloir mêler l'écriture sainte avec ses idées scientifiques, surtout quand il ne pouvait pas les prouver, ce qui était le cas, puisque Galilée n'a rien pu prouver. Il avait besoin des lois de Newton qui allaient arriver plus tard pour pouvoir prouver ce qu'il disait. En plus, Galilée se trompait. Est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil ou est-ce que c'est l'univers qui tourne autour de la Terre? Bonne question. Donc, n'ayons pas peur de manifester notre foi, de manifester notre amour pour la foi catholique. Soyons fiers d'être catholiques. Voyez ce qui se passe aujourd'hui en France. Les gens qui appartiennent à une fausse religion, qui suivent un faux Dieu, se vexent et se révoltent et assassinent les gens parce qu'on touche à leur faux Dieu, alors qu'ils ont un faux Dieu. Et nous, nous avons un vrai Dieu, nous avons une véritable Église et nous ne disons rien lorsqu'on est attaqué. Bon, certes, on n'est pas justifié, évidemment, de ne pas vous demander de défendre la foi catholique telle que les musulmans défendent leur Église. Bien sûr que non. On ne défend pas l'Église de cette façon-là, c'est évident. Mais il nous faut nous rappeler, justement, ces choses qui sont absolument élémentaires. Car nous sommes les soldats de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes membres à part entière de l'armée de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est qu'un catholique? Un catholique, c'est un soldat. Par le sacrement de confirmation, nous avons le caractère de soldat de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Église militante, c'est quoi? Miles, ça veut dire quoi en latin? Miles, ça veut dire le soldat. Donc l'Église militante, c'est l'Église des gens qui se battent. Il faut nous battre au service de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un militaire se bat, il va prendre des coups, il va être obligé d'en donner. C'est absolument évident. Donc n'ayons pas peur de manifester notre foi en la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas supporter du haut du ciel de voir qu'il est équiparé à des faux dieux. Notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas partager sa foi, sa divinité, sa gloire divine avec des faux dieux. C'est absolument impossible. N'oublions pas la doctrine de l'Église sur ce sujet. Il faut avoir le courage de le dire aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule Église parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En dehors de l'Église catholique, il n'y a pas de salut. L'Église va même jusqu'à enseigner qu'il n'y a même pas de valeur de salut en dehors de l'Église catholique. Il ne faut pas avoir peur. À pas avoir peur de l'affirmer. Lorsque nous disons ces gens-là, ces choses-là, les gens nous crient au visage, pour qui vous prenez-vous? Pour qui nous prenons? Pour des catholiques. Pour des catholiques, rappelez-vous ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. Ah, mais vous mettez tout le monde en enfer, tous ceux qui ne sont pas catholiques en enfer. Ce n'est pas du tout ce qu'on fait. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, celui qui croit et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croit pas sera condamné. Ce n'est pas de ma faute, c'est lui qui a dit ça. Et donc en dehors de l'Église catholique, on ne peut pas être sauvé. Ça veut dire que personne ne peut être sauvé en dehors de la foi catholique, en dehors de l'Église une, sainte, catholique, apostolique qu'a fondée notre Seigneur Jésus-Christ. Donc n'ayons pas peur d'affirmer ces choses-là. Notre Seigneur Jésus, personne ne peut se sauver en dehors de l'Église catholique. On ne peut pas se sauver dans une fausse Église, c'est absolument impossible. Voilà pourquoi l'Église catholique a envoyé dans le monde entier des missionnaires pendant tous les siècles de l'Église pour justement amener les gens à la foi catholique et aider les gens à se sauver, ce qu'on appelle la civilisation chrétienne. Alors n'ayons pas peur, mes bien chers frères, d'affirmer ces choses-là plus que jamais. Aujourd'hui, nous avons besoin de catholiques qui ont l'amour pour leur Église et qui n'ont pas peur de manifester leur amour pour l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas honte de l'Église catholique. Quand on voit en face de nous, c'est ça le grand problème, en face de nous, dans l'Église du Vatican II, le Bergoglio qui raconte n'importe quoi, qui sort une hérésie par jour à peu près maintenant, qui raconte n'importe quoi, qui prétend, par exemple, que tous les hommes sont des enfants de Dieu, ce qui va contre tout l'enseignement de l'Église. Rappelons l'enseignement de l'Église, tous les hommes sont des créatures de Dieu. Les musulmans sont des créatures de Dieu, les bouddhistes sont des créatures de Dieu, nous sommes tous des créatures de Dieu, c'est absolument évident. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous sommes de devenus enfants de Dieu par le baptême. Donc celui qui n'est pas baptisé n'est pas enfant de Dieu. Et c'est une hérésie de dire que quelqu'un qui n'est pas baptisé est enfant de Dieu, parce qu'à ce moment-là, on est obligé d'en conclure que le baptême sert absolument à rien. Alors le baptême est nécessaire au salut. Vous voyez, mais bien, j'avais comme il est important aujourd'hui, plus que jamais, d'affirmer notre foi en toutes ces choses-là. De se rappeler que l'Église est une, et qu'elle sera toujours une. Nous ne tomberons pas dans le piège de ceux qui disent, et on entend ça tout le temps, même parfois de catholiques, ah, il faut prier pour que l'unité de l'Église soit rétablie. L'unité de l'Église n'a pas besoin d'être rétablie, puisque l'Église est une, a toujours été une et sera une jusqu'à la fin des temps. Pas besoin de rétablir l'unité de l'Église. L'unité de l'Église est là parce qu'elle est divine. Donc si on dit que l'Église catholique, l'unité de l'Église catholique doit être rétablie, ça veut dire qu'elle était perdue. Si elle est perdue, ça veut dire que l'Église n'est pas une, donc elle n'est pas catholique. Donc Dieu nous a menti. L'Église catholique est une dans son culte, elle est une dans son gouvernement, elle est une dans sa foi, et ces choses-là ne pourront jamais être changées. Certes, le bon Dieu n'a jamais promis qu'il y aura des milliards et des milliards de catholiques. En fait, il a parlé de l'inverse. Il a dit à la fin des temps, quand je reviendrai, qui sait si je trouverai encore la foi. Le cardinal Pi lui-même avait annoncé que l'Église serait réduite à une dimension domestique. Mais l'Église sera toujours là, attention. L'Église est une et sera toujours une. Dans le sens aussi qu'il n'y a pas de moyen de salut en dehors de l'unité de cette Église catholique, de même que l'Église catholique est sainte. Voilà pourquoi nous devons nous aussi, nous, si vous voulez, nous utiliser cette sainteté de l'Église, cette sainteté de la foi catholique, pour nous incorporer à cette sainteté. Certes, il y a malheureusement des hommes d'église qui ne font pas leur travail, c'est exact. Il y a toujours eu malheureusement des mauvais prêtres. Regardez notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, pourtant c'est lui qui a préparé ses apôtres, il y a un apôtre qui a trahi. Et ils ont tous trahi, c'est pas pour autant que l'église arrête d'être sainte. L'église est une sera toujours une, l'église est sainte et sera toujours sainte. Dans sa doctrine, dans son culte, dans son gouvernement. Bon, aujourd'hui, évidemment, il faut quand même faire bien les distinctions entre ces deux églises, l'Église catholique et l'Église du Vatican II. Lorsqu'on me dit, on reçoit constamment des allusions de ce genre, disant, mais regardez, ben, votre pape il raconte n'importe quoi. C'est vrai, mais ce n'est pas notre pape. Qui est Bergoglio? Bergoglio, c'est le pape de l'Église du Vatican II, ce n'est pas mon Église. Je ne suis pas prêtre de l'Église du Vatican II, je suis prêtre catholique. Donc l'Église est une et sainte. Elle est catholique, ça veut dire quoi? Qu'elle est universelle. On parle aujourd'hui tout le temps du gouvernement mondial. L'Église veut un gouvernement mondial. Elle veut quoi comme gouvernement mondial? Elle veut que tous les gouvernants, que tous les peuples reconnaissent l'autorité de l'unique vrai roi, notre Seigneur Jésus-Christ, vrai roi, comme créateur et comme rédempteur. Voilà l'universalité voulue par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas reconnu comme vrai roi dans le monde entier, qui est-ce qui va être reconnu comme vrai roi? C'est le démon. Et on voit exactement ce qui se passe actuellement. Si la France est devenue une poubelle, un cadavre en voie de décomposition avancée, comme je dis, eh bien c'est pourquoi? C'est parce qu'on a mis le bon Dieu dehors, pardi. Donc l'Église est toujours, toujours catholique, c'est-à-dire qu'elle est universelle pour tous les temps, pour tous les lieux, pour tous les peuples. Et encore une fois, personne ne peut être sauvé sans cette Église. Et l'Église est également apostolique, dans le sens qu'elle vient des apôtres, non pas simplement avec une continuité physique, depuis le premier pape Saint-Pierre jusqu'à la mort du pape Pie XII, puisque malheureusement depuis nous sommes orphelins d'autorité. Mais l'Église est aussi apostolique, dans le sens que l'enseignement de l'Église catholique vient de notre Seigneur Jésus-Christ, puisque le dépôt de la foi est clos à la mort du dernier des apôtres Saint-Jean. Donc l'Église est apostolique dans le sens qu'il y a aussi une apostolicité dogmatique. L'enseignement de l'Église catholique est toujours le même et ne peut pas être changé. Parce que Dieu ne peut pas être changé. Enfin, cette Église qui est une sainte catholique et apostolique, on peut rajouter une cinquième note, elle est persécutée aussi. Notre Seigneur Jésus-Christ a été persécuté. Nous ne voulons pas qu'il règne sur nous, ont dit les Juifs. Et ils l'ont crucifié. Et Pilate est rentré dans la combine et est coupable aussi du meurtre de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, si notre Seigneur Jésus-Christ a été persécuté, son Église a toujours été persécutée, et l'Église actuelle, l'Église catholique d'aujourd'hui, toujours persécutée. Et si l'Église n'était pas persécutée, ce serait un signe que cette Église n'était pas de Dieu. Donc vous et moi, étant membres de cette Église, mes bien chers frères, eh bien nous serons persécutés nous aussi. Alors pourquoi il nous faut maintenir, mes bien chers frères, maintenir un grand, grand amour de cette Église. Je vous ai souvent parlé de ces trois symboles qui sont tellement importants, que je voudrais bien voir dans toutes les familles catholiques. Surtout aujourd'hui, nous avons besoin, dans nos familles, de manifester notre attachement à l'Église. Quel est le premier signe qu'il faut voir dans toutes les familles catholiques? C'est la croix. Est-ce que la croix, c'est le symbole de notre rédemption? Notre Seigneur Jésus-Christ nous a sauvés par la croix. Il aurait pu nous sauver, nous offrant une marguerite tous les matins, ce serait tellement plus pratique pour tout le monde. Il a voulu nous sauver en mourant sur la croix pour chacun d'entre nous. Donc la croix, c'est quoi? La croix, c'est la messe. Voilà pourquoi l'Église du Vatican ne peut pas supporter la messe traditionnelle. Parce que la messe traditionnelle, c'est renouvellement de son gland, de sacrifice du calvaire. Et l'Église du Vatican II ne veut plus de ce sacrifice du calvaire. Puisqu'elle ne veut plus adorer Dieu, mais adorer l'homme. Et nous qui sommes catholiques, au contraire, nous avons cet amour pour la croix, donc on va avoir cet amour pour la messe. Et remercier le bon Dieu si nous avons la messe, même pour ceux qui habitent très loin, malheureusement, et qui n'ont pas la messe bien souvent. Remercions le bon Dieu pour la messe. Je reçois régulièrement des messages de remerciements de gens qui habitent très très loin dans les pays où il n'y a pas la messe, où il n'y a rien du tout, qui sont tout contents de pouvoir avoir la messe en vidéo sur la chaîne dont je m'occupe. Grâce à cet ami d'Andorre qui permet la technique derrière pour que ça puisse se faire, parce que moi je ne connais pas grand-chose en électronique. Donc ayons d'abord la croix dans notre maison, fièrement. Deuxième chose qu'il nous faut avoir, c'est Notre-Dame. Donc la statue de Sainte Vierge. Première chose qu'on regarde dans une maison, c'est est-ce qu'il y a une croix? Est-ce qu'il y a une statue de la Sainte Vierge Marie? Mais si nous, on ne regarde pas très bien ça, je vous assure qu'il y a quelqu'un qui regarde très bien, c'est le démon. Avant de rentrer dans une maison, qu'est-ce que fait le démon? Il commence par vérifier s'il n'y a pas la croix. Il commence par vérifier qu'il n'y a pas de statue de la Sainte Vierge dans la maison. Et s'il voit la croix de la Sainte Vierge, qu'est-ce qu'il fait? Il part, il s'en va. Il ne rentre pas dans cette maison. Parce que la croix lui rappelle qu'il a été détruit par cette croix. La statue de la Sainte Vierge lui rappelle qu'elle est celle qui lui écrasera la tête. C'est ce qui lui a été annoncé. Toi, tu chercheras à la mort de talon, mais elle t'écrasera la tête. Il le sait. Alors il s'en va. Donc ayons cet amour pour la Très Sainte Vierge Marie, non seulement la statue de la Très Sainte Vierge Marie, à nos maisons qui trône dans un lieu digne, mais en même temps la dévotion au chapelet, justement pour nous rappeler que nous sommes enfants de Marie. Étant enfants de Dieu, nous sommes enfants de Marie. On ne peut pas séparer la mère du Fils, on ne peut pas séparer la reine du roi. Donc demandons au bon Dieu cet amour également pour la Très Sainte Vierge Marie. Prions notre chapelet bien tous les jours, offrez votre chapelet tous les jours, surtout pendant le mois de novembre, pour les âmes du purgatoire. Et enfin, je vous l'ai souvent dit, le troisième symbole que je voudrais voir dans toutes les familles catholiques, c'est le symbole de la papauté. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu se continuer par le pape. C'est pour cela qu'il a donné au pape, avec un grand P, le privilège extraordinaire de l'infaillibilité pontificale. Dans son magistère ordinaire et dans ce magistère extraordinaire, quand en tant que pape, il parle sur la foi et les mœurs, c'est qu'intention d'obliger toute l'Église. Et donc il nous faut avoir cet amour à l'égard de la papauté, surtout et encore plus aujourd'hui, alors que nous avons à la tête de l'Église du Vatican II quelqu'un qui a complètement oublié son rôle, justement, de défendre le dépôt de la foi. Et c'est précisément parce que Bergoglio ne fait plus rien, détruit la foi catholique, qu'il nous faut affirmer notre amour de la papauté. Donc ayez dans vos maisons une belle image de Saint Pie X ou de Saint Pie V, ou du pape IX, ou d'un autre grand pape, c'est pas ça qui manque dans l'histoire de l'Église. Et accrochons-nous à ces symboles, accrochons-nous à la croix, plantons cette croix à l'intérieur de notre cœur, Accrochons-nous la Très Sainte Vierge Marie en nous manifestant comme fils de la Très Sainte Vierge Marie. Et accrochons-nous la papauté, parce que la papauté nous relie à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes chers frères, ce qu'il nous faut, ce qu'il nous faut demander à la Très Sainte Vierge Marie aujourd'hui. Soyons des fils d'Église, et plus que jamais soyons des fils d'Église aujourd'hui. Personne ne peut se sauver sans l'Église. Donc personne ne peut se sauver sans la croix, personne ne peut se sauver sans la Très Sainte Vierge Marie, personne ne peut se sauver sans la papauté. Surtout aujourd'hui, plus que jamais, il nous faut affirmer ces choses-là. Ayons ce drapeau. Voilà pourquoi la soutane du prêtre est tellement importante aujourd'hui. La soutane du prêtre, c'est un drapeau. Dans le monde moderne, qui ne pense qu'à l'argent, qui ne pense qu'aux choses matérielles, la soutane du prêtre rappelle justement que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Alors ne nous décourageons jamais, bien chers frères, mais en ces temps qui deviennent de plus en plus difficiles et qui deviendront sans doute de plus en plus difficiles, il n'est pas impossible que le bon Dieu nous demande maintenant des sacrifices de plus en plus grands. Peut-être, je ne sais pas, je ne veux pas être prophète, mais peut-être que le bon Dieu va finir par nous demander des sacrifices de notre vie. C'est pas impossible. Les choses se détériorant avec une telle rapidité, il n'est pas impossible que le bon Dieu permette des persécutions physiques. Eh bien, nous aurons notre Seigneur Jésus-Christ avec nous et nous rappellerons les persécutions physiques qui ont été lancées contre notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Rappelez-vous ce cri de guerre de ceux qui ont assassiné notre Seigneur Jésus-Christ, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien, nous, ce sang, notre Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons sur l'autel. Nous l'avons sur l'autel, nous le recevons à chaque messe avec le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Utilisons ce sang rédempteur justement pour nous laver avec ce bain de régénérescence extraordinaire qu'est la Sainte Messe, pour pouvoir garder en nous l'état de grâce, c'est-à-dire là, déjà un petit bout de paradis à l'intérieur de notre âme, puisque l'état de grâce n'est rien d'autre que l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Demandons toutes ces grâces en cette grande fête de la Toussaint. Et n'oublions pas demain, en ce jour des morts, de prier pour tous nos défunts qui attendent nos prières. Peut-être des gens qui sont au purgatoire, qui attendent de sortir pour sortir, que les catholiques prient pour eux, pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse appliquer cette indulgence plénière qui est accordée demain, qui est accordée pas seulement demain, mais à partir d'aujourd'hui, je vous le dis, vous pouvez le faire dans un cimetière. N'importe quelle prière à l'intention des morts, pour dire une dizaine de chapelets dans un cimetière, depuis aujourd'hui jusqu'au 9 inclus, 9 novembre inclus. Tous les jours, vous pouvez gagner des indulgences pour les âmes du purgatoire. Ayez pitié des âmes du purgatoire. Faites le bien tous les jours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.